Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h de matin de temps à Jakarta maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi du commentaire « Aujourd'hui dans l'histoire », la mission au point, et puis on présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'importance de la construction d'une infrastructure intégrée. L'ASEAN peut aider l'Union européenne liée à la question des immigrants. COP22 est une conférence de la réalisation. Le bois indonésien entrera l'Union européenne. Le président estime que l'Indonésie peut produire d'équipements de défense. Et enfin, l'appréciation de la Corée du Sud pour la déclaration de l'Indonésie sur le nucléaire nord-coréen. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien continue à encourager la construction d'infrastructures de transport dans de nombreuses régions de l'Indonésie. On souhaite la construction des infrastructures intégrées puisse améliorer le service de transport pour les utilisateurs de transport. Il a été dit par le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, à l'exposition des transports et de l'infrastructure de l'Indonésie 2016 qui a lieu à Smesco Convention Center à Jakarta mercredi. Il est non seulement lié aux choses sectorielles. Nous pensons toujours comment l'intégration de l'infrastructure qui a été construite par le ministère des Travaux publics et du logement public sera utilisée pour des bonnes activités. En outre, nous avons le soutien du corps de trafic de la police et d'autres ministères. Cela indique que le gouvernement est très sérieux de construire des infrastructures frugales. Selon le ministre Budi Karya Sumadi, le ministère des Transports donnera également au secteur privé à participer à la construction des infrastructures de transport. Le secteur privé sera impliqué afin d'alléger le budget gouvernemental sans négliger les objectifs de développement. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN, Francisco Fontan, a déclaré mercredi le 15 septembre au secrétariat de l'ASEAN que l'Union européenne et l'ASEAN pouvaient apprendre à surmonter les problèmes des immigrants. Les problèmes liés aux immigrants se sont produits dans diverses régions du monde, y compris dans la région de l'ASEAN. En Europe, la question des immigrants sont discutées dans le cadre de l'Union européenne et résolues à travers la coopération bilatérale et régionale. L'ASEAN, en tant que partenaire de l'Union européenne, peut apprendre les uns des autres et donner l'assistance aux problèmes qui deviennent maintenant l'attention du monde.
I think we can use help from absolutely all our partners.
Je pense que nous avons certainement besoin de l'aide de nos partenaires. La question des immigrants est un problème mondial. Si on veut résoudre les conflits régionaux, on a besoin de l'aide des pays voisins, les réfugiés politiquement et économiquement en provenance de partout dans le monde. Pour cela, nous avons besoin de l'aide des partenaires dans le monde entier, y compris l'ASEAN. Une vague de réfugiés a inondé l'Europe ces dernières années. Les vagues d'immigrants font des pays européens refusent d'accepter les réfugiés. La plupart des réfugiés du Moyen-Orient sont venus des pays en conflit où ils cherchaient un abri et un meilleur endroit pour rester en Europe. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, à Jakarta, a déclaré que la conférence des parties, ou COP22, sur le changement climatique qui se tiendra à Marrakech, le Maroc, est une mise en œuvre des résultats des accords conclus lors de la COP21 à Paris. Dans son discours à l'ouverture de la semaine de la diplomatie du climat de l'Union européenne, la ministre Siti Nurbaya a affirmé que COP22 à Marrakech est une occasion importante pour l'Indonésie de montrer son engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique conformément aux circonstances nationales.
We are now looking at a continuing milestone of COP22 in Marrakech, where we are provided with an opportunity to express our commitment.
Nous attendons une étape continuelle à la COP22 à Marrakech, où nous avons une occasion de montrer notre engagement pour faire face aux défis et mettre en œuvre les résultats de l'accord conformément aux circonstances nationales et la capacité respective. Ceci est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour appeler la conférence sur le changement climatique comme réalisation de la COP. Malgré le défi, l'Indonésie engage à contribuer à la lutte contre le changement climatique mondial pour la détermination nationale des contributions. Pendant ce temps, le représentant de l'ambassade du Maroc à l'Indonésie, Jacaria Rifki, a déclaré que le Royaume du Maroc a engagé à la préservation environnementale. Selon lui, le Royaume du Maroc encourage également la feuille de route pour mobiliser des fonds de 100 milliards de dollars américains en 2020 pour soutenir tous les efforts pour résoudre l'impact du changement climatique. Le gouvernement indonésien va bientôt commencer à expédier du bois vers les pays européens. La première livraison est prévue pour être lancée à la mi-novembre. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gurang, a déclaré mardi à Jakarta que l'envoi de bois était une mise en œuvre de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Union européenne dans le cadre de l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux ou FLEG. Le FLEG encourage les réformes de gouvernance forestière et la lutte contre la déforestation. Selon l'ambassadeur Vincent, le bois indonésien va obtenir la facilité d'entrée dans l'Union européenne.
Very soon, the first shipment of Indonesian timber, which
dans un proche avenir, la première expédition de bois indonésien entrera l'Union européenne. Ces bois se sont conformés à la réglementation européenne. Ils entreront presque librement sans les contrôles des autorités d'immigration parce que l'Union européenne a reconnu la licence de l'Indonésie. Donc, ceci est la première coopération bilatérale dans le monde entier. L'ambassadeur Vincent Gurang a déclaré qu'actuellement, plus de 90% des exportations de bois indonésien proviennent des usines et des forêts qui sont auditées de façon indépendante. En vertu de la réalisation, dans un proche avenir, l'Indonésie sera le premier pays dans le monde qui a une vérification de la légalité du bois national SVLK dans le monde en conformité avec FLEG qui permettra à l'Indonésie d'exporter du bois produit vers l'Europe à travers la voie rapide. Le président Joko Widodo croit que l'Indonésie à l'avenir sera capable de produire le système d'armement principal à l'autre système indépendamment. Cela a été dit par le président Joko Widodo sur le pont du navire Banjarmasin 592 après avoir assisté aux exercices de guerre 2016 qui a eu lieu dans la mer de Java au nord de Madura mercredi. Selon le président, toutes les armes stratégiques seront produites par l'Indonésie. Selon le président, l'Indonésie peut étudier des armes qui sont achetées. Est-ce qu'il est possible que l'industrie stratégique d'Indonésie produise ces armes? Il est sûr que le résultat pourra soutenir l'indépendance. L'ambassadeur sud-coréen à l'Indonésie, Cho Tae-yung, a apprécié la déclaration de l'Indonésie qui a déploré l'essai nucléaire de la Corée du Nord le 9 septembre. La Corée du Sud apprécie toujours l'étape indonésienne dans le maintien de la paix mondiale, en particulier dans la péninsule coréenne. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur sud-coréen à Antara au Centre culturel coréen mercredi à Jakarta. Il estime que l'Indonésie, comme pays membre des Nations Unies, a appliqué les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à l'essai nucléaire de la Corée du Sud, tout en établissant les bonnes relations diplomatiques avec ce pays. Lors de la visite du président Joko Widodo en Corée du Sud en mai de cette année, le président a exhorté la Corée du Nord d'obéir toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon l'ambassadeur Cho Tae-yung, la Corée du Nord est frère de sang. Même la réunification des deux pays sont devenus les idéaux à atteindre par la Corée du Sud. Par conséquent, la Corée du Sud espère que la Corée du Nord arrête les essais nucléaires et divers autres actes de provocation. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la performance du port encourage la croissance économique nationale. Les activités portuaires sont très importantes dans l'encouragement de la croissance économique, notamment à travers les activités de chargement et de déchargement qui soutiennent l'exportation et l'importation. Actuellement, les hommes d'affaires se plaignent du processus de dwelling time ou le long temps d'attente de chargement et de déchargement dans certains ports en Indonésie. Par conséquent, le gouvernement est déterminé à améliorer la performance des activités de chargement et de déchargement dans un port meilleur en Indonésie. Lors de l'inauguration du terminal de fret en Kalibaru, Tanjung Priok, le nord de Jakarta, le 13 septembre, le président Joko Widodo a expliqué qu'actuellement, tous les pays s'améliorent à propos de la concurrence mondiale. Par conséquent, l'Indonésie ne devrait pas manquer et reste simplement sur place. Avec le développement de l'infrastructure à partir de dwelling time ou le temps d'attente de chargement et de déchargement plus rapide et efficace au port peut encourager le niveau de la concurrence et la croissance économique. Le président a également ordonné la coupe du temps de déchargement de 7 à 2 ou 3 jours. Cela est appliqué dans les ports de Blawan, Medan, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Emas à Semarang et Makassar, Sulawesi du Sud. Pour prévenir l'apparition d'actes qui entravent, le président Joko Widodo a demandé au chef de la police indonésienne de surveiller le processus de dwelling time. Relatif à l'ordre présidentiel, le commandant en chef de la police indonésienne, le général Tito Karnavian, a dit que la police verrait les résultats d'amélioration de chaque port. Si cela ne se déroule pas bien, la police formera un groupe de travail. Il a souligné que le contrôle de la police est commencé à partir de l'étape de pré-dédouanement, à savoir la gouvernance de licence, la bureaucratie et les procédures de licence. Ensuite, l'étape de dédouanement, à savoir le processus d'examen effectué par le conseil des douanes. Ce dernier est l'étape après dédouanement, l'autorité portuaire. Pendant ce temps, le président directeur de PT Pelindo II, Elvin G. Massasia, a révélé pour assurer la disponibilité opérationnelle, le terminal de fret Kalibaru a mis en œuvre un certain nombre des essais qui est commencé le 28 janvier 2016. Selon Elvin, le fonctionnement du terminal de fret Kalibaro est soutenu par l'état de préparation opérationnelle, à la fois en termes d'infrastructure, de la superstructure ainsi que des systèmes d'information sur le côté du quai. Outre l'état de préparation sur le terrain et la porte, ainsi que la synchronisation du processus de service entre le terminal avec d'autres organismes gouvernementaux, tels que les douanes, l'immigration et la quarantaine, y compris avec les hommes d'affaires de la logistique et les propriétaires de biens, si bien que le dwelling time peut être plus rapide. L'amélioration du temps d'attente de déchargement à 2 ou 3 jours permettra d'améliorer la compétitivité de l'économie indonésienne, en particulier les exportations et les importations. Si la performance des exportations et des importations se déroule bien, l'économie nationale augmentera, surtout supprimer des coûts économiques élevés à cause de l'existence des coûts cachés et mettre en œuvre des programmes gouvernementaux Nawacita ainsi que la lutte contre la corruption. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Ce soir, l'édition le 15 septembre. Nous allons commencer au 15 septembre 1950, la guerre de la Corée. Les forces armées américaines débarquent à Lincheon, en Corée. La guerre de Corée, qui a duré du 15 septembre 1950 jusqu'au 27 juillet 1953, est un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette guerre est aussi appelée la guerre qui a été mandatée entre les États-Unis et leurs alliés de l'ONU avec la République populaire communiste de la Chine et l'Union soviétique. Les participants principaux de cette guerre sont la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les principaux alliés de la Corée du Sud, y compris les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Grande-Bretagne, bien que nombreux autres pays aient envoyé des troupes sous le drapeau des Nations Unies. L'allié de Corée du Nord, comme la République populaire de Chine, a fourni les forces militaires, tandis que l'Union soviétique y a fourni plein de consultatifs de la guerre et pilotes, ainsi que les armes pour les forces chinoises et nord-coréennes. On change au 15 septembre 1971, première action de Greenpeace. Des militants écologistes embarquent à Vancouver sur la piste Comac pour se rendre sur le site des essais nucléaires américains en Alaska. Nommant le mouvement ne fait pas de vagues. Leur action reflète alors autant un engagement pour la protection de la nature que contre les armes nucléaires. La stratégie développée est celle de ces rapports terroristes pour empêcher l'opération en cours. Cette pratique deviendra rapidement la signature d'une organisation qui prendra le nom Greenpeace, ou Paix Verte, dès 1971. On termine au 15 septembre 1995 les droits des femmes de l'ONU. La déclaration finale de la conférence de l'ONU consacrée aux femmes réaffirme que les droits des femmes sont partie intégrante et indivisible des droits humains. Elle a été adoptée par la 181 délégations participant au débat. Les États catholiques et musulmans ont essayé en vain d'exclure la notion de sexualité des textes. Chers amis, c'était notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie à Jakarta de l'édition 15 septembre. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée L'Indonésie lors de la quatrième conférence des MPME de l'Asie. L'Indonésie accueille la 4e conférence sur le micro, petite et moyenne entreprise avec le thème Small Business ou Start-up, tenue du 13 au 17 septembre 2016. Cette conférence est participée par 16 pays en dehors de l'Indonésie et le nombre de participants a atteint 700 personnes, donc 100 participants venant de l'étranger. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, M. Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga, a déclaré récemment que l'Asie était maintenant devenue le centre de la croissance économique et le plus grand marché dans le monde. Selon lui, l'Asie devient l'un des quartiers d'affaires le plus compétitif et prêt à concurrencer avec d'autres continents. Selon Puspa Yoga, les MPME en Indonésie et ceux qui se développent rapidement en Asie. Pour faciliter les activités des hommes d'affaires des MPME, le gouvernement indonésien est en train de faire les réglementations. Les micro, petites et moyennes entreprises en Indonésie continuent de démontrer la croissance et l'intérêt accru du public. Puspa Yoga espère MPME peut survivre et développer face à la communauté économique de l'ASEAN. Et on souhaite également que la 4e conférence des micro, petites et moyennes entreprises de l'Asie 2016 sera l'événement pour renforcer la compétence des MPME. Cette conférence a beaucoup de programmes très intéressants, tels que la visite aux entreprises qui proviennent de PME ou les entreprises que soutiennent les PME en Indonésie, à savoir Astra et Marta Tilar. En outre, on organise la présentation de documents de recherche sur le thème des PME, des spectacles culturels indonésiens et des conférences avec beaucoup de conférenciers qui sont célébrés dans le monde. Chers amis, c'est la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le gouvernement indonésien continue à encourager la construction d'infrastructures de transport dans de nombreuses régions de l'Indonésie. On souhaite la construction des infrastructures intégrées puisse améliorer le service de transport pour les utilisateurs de transport. Il a été dit par le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, à l'exposition des transports et de l'infrastructure de l'Indonésie 2016 qui a lieu à Smesco Convention Center à Jakarta mercredi. Il est non seulement lié aux choses sectorielles. Nous pensons toujours comment l'intégration de l'infrastructure qui a été construite par le ministère des Travaux publics et du logement public sera utilisée pour des bonnes activités. En outre, nous avons le soutien du corps de trafic de la police et d'autres ministères. Cela indique que le gouvernement est très sérieux de construire des infrastructures frugales. Selon le ministre Budi Karya Sumadi, le ministère des Transports donnera également au secteur privé à participer à la construction des infrastructures de transport. Le secteur privé sera impliqué afin d'alléger le budget gouvernemental sans négliger les objectifs de développement. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN, Francisco Fontan, a déclaré mercredi le 15 septembre au secrétariat de l'ASEAN que l'Union européenne et l'ASEAN pouvaient apprendre à surmonter les problèmes des immigrants. Les problèmes liés aux immigrants se sont produits dans diverses régions du monde, y compris dans la région de l'ASEAN. En Europe, la question des immigrants sont discutées dans le cadre de l'Union européenne et résolues à travers la coopération bilatérale et régionale. L'ASEAN, en tant que partenaire de l'Union européenne, peut apprendre les uns des autres et donner l'assistance aux problèmes qui deviennent maintenant l'attention du monde.
I think we can use help from absolutely all our partners.
Je pense que nous avons certainement besoin de l'aide de nos partenaires. La question des immigrants est un problème mondial. Si on veut résoudre les conflits régionaux, on a besoin de l'aide des pays voisins, les réfugiés politiquement et économiquement en provenance de partout dans le monde. Pour cela, nous avons besoin de l'aide des partenaires dans le monde entier, y compris l'ASEAN. Une vague de réfugiés a inondé l'Europe ces dernières années. Les vagues d'immigrants font des pays européens refusent d'accepter les réfugiés. La plupart des réfugiés du Moyen-Orient sont venus des pays en conflit où ils cherchaient un abri et un meilleur endroit pour rester en Europe. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, à Jakarta, a déclaré que la conférence des parties, ou COP22, sur le changement climatique qui se tiendra à Marrakech, le Maroc, est une mise en œuvre des résultats des accords conclus lors de la COP21 à Paris. Dans son discours à l'ouverture de la semaine de la diplomatie du climat de l'Union européenne, la ministre Siti Nurbaya a affirmé que COP22 à Marrakech est une occasion importante pour l'Indonésie de montrer son engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique conformément aux circonstances nationales.
We are now looking at a continuing milestone of COP22 in Marrakech, where we are provided with an opportunity to express our commitment.
Nous attendons une étape continuelle à la COP22 à Marrakech, où nous avons une occasion de montrer notre engagement pour faire face aux défis et mettre en œuvre les résultats de l'accord conformément aux circonstances nationales et la capacité respective. Ceci est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour appeler la conférence sur le changement climatique comme réalisation de la COP. Malgré le défi, l'Indonésie engage à contribuer à la lutte contre le changement climatique mondial pour la détermination nationale des contributions. Pendant ce temps, le représentant de l'ambassade du Maroc à l'Indonésie, Jacaria Rifki, a déclaré que le Royaume du Maroc a engagé à la préservation environnementale. Selon lui, le Royaume du Maroc encourage également la feuille de route pour mobiliser des fonds de 100 milliards de dollars américains en 2020 pour soutenir tous les efforts pour résoudre l'impact du changement climatique. Le gouvernement indonésien va bientôt commencer à expédier du bois vers les pays européens. La première livraison est prévue pour être lancée à la mi-novembre. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gurang, a déclaré mardi à Jakarta que l'envoi de bois était une mise en œuvre de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Union européenne dans le cadre de l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux ou FLEG. Le FLEG encourage les réformes de gouvernance forestière et la lutte contre la déforestation. Selon l'ambassadeur Vincent, le bois indonésien va obtenir la facilité d'entrée dans l'Union européenne.
Very soon, the first shipment of Indonesian timber, which
dans un proche avenir, la première expédition de bois indonésien entrera l'Union européenne. Ces bois se sont conformés à la réglementation européenne. Ils entreront presque librement sans les contrôles des autorités d'immigration parce que l'Union européenne a reconnu la licence de l'Indonésie. Donc, ceci est la première coopération bilatérale dans le monde entier. L'ambassadeur Vincent Gurang a déclaré qu'actuellement, plus de 90% des exportations de bois indonésien proviennent des usines et des forêts qui sont auditées de façon indépendante. En vertu de la réalisation, dans un proche avenir, l'Indonésie sera le premier pays dans le monde qui a une vérification de la légalité du bois national SVLK dans le monde en conformité avec FLEG qui permettra à l'Indonésie d'exporter du bois produit vers l'Europe à travers la voie rapide. Le président Joko Widodo croit que l'Indonésie à l'avenir sera capable de produire le système d'armement principal à l'autosista indépendamment. Cela a été dit par le président Joko Widodo sur le pont du navire Banjarmasin 592 après avoir assisté aux exercices de guerre 2016 qui a eu lieu dans la mer de Java au nord de Madura mercredi. Selon le président, toutes les armes stratégiques seront produites par l'Indonésie. Selon le président, l'Indonésie peut étudier des armes qui sont achetées. Est-ce qu'il est possible que l'industrie stratégique d'Indonésie produise ces armes? Il est sûr que le résultat pourra soutenir l'indépendance. L'ambassadeur sud-coréen à l'Indonésie, Cho Tae-yung, a apprécié la déclaration de l'Indonésie qui a déploré l'essai nucléaire de la Corée du Nord le 9 septembre. La Corée du Sud apprécie toujours l'étape indonésienne dans le maintien de la paix mondiale, en particulier dans la péninsule coréenne. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur sud-coréen à Antara au Centre culturel coréen mercredi à Jakarta. Il estime que l'Indonésie, comme pays membre des Nations Unies, a appliqué les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à l'essai nucléaire de la Corée du Sud, tout en établissant les bonnes relations diplomatiques avec ce pays. Lors de la visite du président Joko Widodo en Corée du Sud en mai de cette année, le président a exhorté la Corée du Nord d'obéir toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon l'ambassadeur Cho Tae-yung, la Corée du Nord est frère de sang. Même la réunification des deux pays sont devenus les idéaux à attendre par la Corée du Sud. Par conséquent, la Corée du Sud espère que la Corée du Nord arrête les essais nucléaires et divers autres actes de provocation. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des affaires fraîches qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel Persona Indonesia. Aujourd'hui, nous allons goûter Tongseng, l'un des plats indonésiens. Donc, restez toujours avec nous à RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Outre Pan On Code, vous pouvez également écouter notre émission par www.voi.co.id. La fête de l'Idul Adha est identique à un repas qui vient du mouton et de la chèvre, parce que les musulmans font le sacrifice religieux avec des moutons. Ensuite, les viandes deviendront de divers repas, entre autres s'appelle tongseng. Les saveurs sucrées et salées combinées avec de la viande de chèvre douce et le soup croquant avec le chili rendent ce plat aimable pour les gens. Il devient plus délicieux quand il est encore chaud. Tongseng est une cuisine indonésienne célébrée dans la région du centre de Java. Ce repas était inspiré par les commerçants du Moyen-Orient. Au XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, nombre de marchands du Moyen-Orient sont venus au commerce dans l'archipel. Outre par le commerce, ils partageaient aussi la religion et apportaient d'autres sauces, y compris la cuisine. L'un des plats se fait de mouton et d'agneau. Parce qu'ils aiment bien manger du mouton et de l'agneau, ce type de plat était transmis à la communauté locale. La viande de chèvre était généralement transformée en saté, et puis il restait d'autres parties hors de la viande de mouton. La partie restante était ensuite transformée en goulash, et la soupe de ce goulash était bouillie et s'est transformée en tongseng. Le mot « seng » de tongseng a été pris à partir du mot « oseng » oseng, qui signifie « la sauter » car pour faire tongseng, on saute d'abord la viande et ensuite on met des tranches de l'oignon, l'ail, le poivre, noix de pécan et chou râpé. N'oubliez pas de mettre la sauce de soja sucré et la soupe de mouton. Tous les matériaux sont mélangés et cuits. Une fois qu'il est cuit, ton sein est prêt à goûter. Il est certainement délicieux. Et pour faire une viande molle sans odeur, ne lavez pas la viande avec de l'eau avant la cuisine. C'est mieux de la laver avec du jus d'ananas ou de feuilles d'orange. On croit que ton sein était originellement venu du district Krego à Boyolali, Java Central, avant de se diffuser à tout coin de l'Indonésie. Au passé, le peuple de Krego travaillait comme les agriculteurs, mais faute de bons revenus, ils ont changé leur profession en vendeurs de saté ou tonsin. Au district de Krego, il existe un monument représentant une marchande de saté et tonsin qui se rend fière au peuple de Krego. Alors, si vous vous êtes intéressé à tonsin, vous pourrez venir à la place d'origine qui est à Krego Boyolali, Java Central. Mais c'est également possible de le goûter partout en Indonésie parce que tonsin est déjà connu à tout le coin de l'archipel. Le prix de tonsin est en moyenne de 30 000 jusqu'à 50 000 rupiah par portion. Chers amis, voilà cette édition de Pesona Indonesia, donc le sujet est la cuisine de tonsin. Merci de votre fidélité et à bientôt.
Couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique L'Indonésie en couleur. Pour ce soir, nous présentons le bus touristique en ville de Surabaya, Java Est. La ville de Jakarta est dans le bus touristique appelé Po City. À Bandung, Bandros et mettons la ville de Surabaya en province de Java Est, on peut prendre le même bus pour transporter les touristes à faire le tour en ville. Tout est grâce au programme du Bureau de la Culture et du Tourisme de Surabaya. Le bus nommé Shopping et Culinary Track fait l'opération basée sur la demande des passagers. Pour cela, il faut d'abord réserver un jour avant de prendre de transporter le bus. Le voyage de ce bus commence toujours à Balai Pemuda Surabaya. Chaque bus peut transporter 24 passagers et chaque jour on opère pour 5 heures et 3 fois par semaine, tels que mardi, samedi et dimanche. Chaque semaine la ligne est différente. Il y a 4 lignes. La première semaine passe des musées tels que celui de Tugu Pahlawan, Obélix d'Ero et celui de la Santé, celui de la Banque d'Indonésie. Et la deuxième semaine, visiter le musée de sous-marine et le centre de petite et moyenne échelle. Pour la troisième semaine, le thème est militaire marine. En visitant le musée Munkacel, le monument de Yosudarso, héros maritime, le musée de Loka Jala Grana et le méga grossier. Pour la quatrième, on passe le parc de la culture. Begi Junction, le village de Lawas Maspati et Joko Dolok. On commence le tour à Balai Pemuda, où la mer, car la mairie et le musée de Surabaya sont obligatoires à visiter. Pour le tarif d'entrée, tout dépend chaque site touristique. Chers amis, c'était notre programme L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant aux divertissements avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 925 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour ce soir, on va présenter le groupe de musique Sela on 7. Il est un groupe de musique populaire en Indonésie qui a été fondé le 6 mai 1996 à Yogyakarta. Ce groupe est composé de Duta Adiatmojo comme chanteur, Eros Chandra de la guitare, Adam Muhammad Subarka à la basse et Anton à la batterie. Bon, chers amis, pour l'ouverture, notre rencontre dans cette édition, écoutez la première chanson intitulée « Dan ».
Diriku bila itu bisa membuatku kembali.
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson chantée par Sela On Seven, intitulée Dan. Cette chanson est le deuxième single de son premier album intitulé Sela On Seven. La composition de cette chanson est simple et réussit à faire un nouveau record. Devient le numéro 1 dans les charts de MTV Ampou pendant 40 semaines et aussi devenu la chanson de l'année pendant 2 années consécutives. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Sela On Seven intitulées Seberapa Pantas.
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Lihat ketara beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan. Kau bertahan dengan hidupku yang malang. Oh, oh. Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Vous écoutez toujours la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical chanté par Sela On Seven. Vous venez d'écouter une chanson intitulée Seberapa Pantas chantée par Sela On Seven. Trois albums de cette groupe ont été vendus des millions d'exemplaires. Pas étonnant que le groupe surnommé Band de millions d'exemplaires. Le dernier album de Sheila on 7, qui a vendu des millions d'exemplaires, est leur troisième album intitulé 07 Death. Et jusqu'à présent, les ventes totales ont atteint 1,5 million d'exemplaires. Cet album gagne le prix Le Plus Prestigieux. Bon, chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, on va écouter les deux dernières chansons intitulées Jeb et Kita. Tous les deux sont chantés par Sheila on 7. Merci à tous et à bientôt.
Bye.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'est mis à la fin de notre émission en français de la Voix d'Indonésie ce soir. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles ou qui nous écoute de quatre coins du monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.